Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Leridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Quatrième et dernier temps de notre série consacrée aux frontières de la colère. Après nous être intéressés lundi au mur séparant les États-Unis du Mexique, mardi aux nouvelles portes de l'Europe, hier aux conflits territoriaux d'Asie centrale, tournons-nous aujourd'hui vers la mer de Chine méridionale où Pékin tente de faire reculer de plus en plus ses frontières maritimes. Mer de Chine méridionale, quand Pékin fait bouger la ligne, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
De nombreuses îles dans la mer de Chine méridionale sont de notre ressort si l'on regarde l'histoire de la Chine. Nous avons le droit de protéger notre territoire et de maintenir notre souveraineté sur le territoire maritime selon les lois admises. Nous avons convenu de maintenir la paix et la stabilité dans la mer de Chine méridionale en gérant les différends et les conflits via le dialogue, les négociations et les consultations. Le tout en usant de méthodes pacifiques et en cherchant les bénéfices communs à travers la coopération mutuelle.
On était poursuivis comme des voleurs. Ils nous ont poursuivis. Nous avons essayé de les semer. Avec mes bateaux, le 90-508 a pu s'échapper et faire demi-tour. Le navire chinois a percuté l'autre. Le 90-152, il a chaviré et a été complètement renversé.
L'occupation des eaux vietnamiennes par la Chine relève d'une tactique. Elle a l'intention de suivre pas à pas sa stratégie pour s'emparer de la mer de Chine méridionale.
Ces dernières années, les incidents se sont multipliés en mer de Chine méridionale en cause des différents territoriaux entre Pékin et les pays de la région sur lesquels la Chine semble extrêmement intransigeante. En effet, récemment encore, le président philippin Rodrigo Duterte a rencontré Xi Jinping avec qui il a évoqué ce sujet, mais le président chinois s'est contenté de proposer à Manille sa bienveillante coopération pour exploiter les ressources naturelles des eaux territoriales disputées, rien de plus. Cet expansionnisme chinois n'est pas sans provoquer des remous dans les pays concernés, avec des manifestations qui se sont multipliées ces derniers mois aux Philippines, mais aussi au Vietnam, dénonçant l'attitude de Pékin qui, après avoir colonisé l'archipel des Paracels, s'approprie les uns après les autres les récifs des Spratleys. Solidifiés à grand renfort de polders, ces confettis territoriaux deviennent des îles artificielles sur lesquelles la Chine installe des bases militaires, comme sur l'île Wudi de Yongxin en chinois, et autour desquelles elle revendique des zones économiques exclusives. Cette politique crée des conflits de souveraineté majeurs, mais aussi évidemment des craintes internationales pour la liberté de circulation dans un des carrefours maritimes les plus fréquentés au monde. Alors comment Pékin a-t-il progressivement affirmé sa puissance dans son espace maritime proche? Peut-on espérer un règlement de ses différends avec ses voisins? Quels sont les efforts de la Chine pour renforcer ses capacités maritimes? Et quels sont au fond les objectifs de Pékin en mer de Chine méridionale? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord Marianne Perrondoise, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire et chercheuse associée également aux séries Sciences Po. À vos côtés, Sébastien Collin, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'INALCO et chercheur à l'IFRAE. L'IFRAE étant
l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est.
Merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec l'actualité. Il y a quelques jours, le président philippin, je le disais dans mon introduction, Rodrigo Duterte a rencontré Xi Jinping. Ils ont évoqué cette question des différents territoriaux en mer de Chine méridionale. Et ce qu'il en est sorti, rien ou presque, sinon une proposition du président chinois de renforcer la coopération dans le domaine de l'exploitation du pétrole et du gaz offshore dans précisément ces eaux disputées. Marianne Perrondoise, que vous inspire cette déroute de Philippines et qu'est-ce qu'elle révèle selon vous de l'intransigeance de Pékin en la matière?
Mais on a un état des lieux qui est assez bien illustré, c'est-à-dire un discours très très lénifiant, très très enveloppant du côté chinois. Et puisque on a choisi le président philippin, peut-être une certaine ambivalence, mais qui recouvre certainement une forme d'impuissance qui caractérise l'ensemble des pays de l'ASEAN, et plus particulièrement, c'est vrai, les Philippines et le Vietnam, qui sont quand même les plus exposés, ou ceux qui essayent, en fin de compte, de chercher une stratégie de contrepoids à cette expansion navale très très brutale de la Chine. Pour parler du président Duterte, c'est vrai qu'il se sent peut-être un peu malmené, dans la mesure où il a eu une politique chinoise assez particulière. C'était quand même la cinquième fois qu'il voyait les responsables chinois à très haut niveau. Il a cru finalement, en arrivant au pouvoir, être celui qui renverserait le statu quo, ou du moins obtenir, sans doute pour les Philippines, la satisfaction de certains droits, c'est-à-dire cette exploitation conjointe à la fois de zones de pêche, de zones d'exploration. Et il faut aussi rappeler que, en fait, lui arrivait dans un contexte un peu particulier sur lequel peut-être on va revenir, qui est ce rendu d'arbitrage en 2016, qui justement essayait de mettre une logique juridique et arrêter les prétentions chinoises en déboutant ces explications ou ces revendications chinoises basées sur des droits historiques et la fameuse ligne en neuf traits qui leur permet de revendiquer les trois quarts de la mer de Chine du Sud. Et c'est vrai que les Philippines s'étaient beaucoup avancées faute de pouvoir opposer un barrage avec les moyens des gardes-côtes et de la police maritime pour protéger ses frontières, et pensaient qu'en allant vers le tribunal d'arbitrage de la Haye, ils pourraient bénéficier au moins d'une couverture juridique. On le voit, ça n'est pas le cas, et on pourra peut-être revenir plus précisément.
On va revenir sur ces éléments, à la fois la question des arbitrages, du droit international sur ces questions-là, et aussi cette fameuse ligne en neuf traits qui est absolument décisive pour comprendre les revendications chinoises. Mais Sébastien Collin, même question à propos de, je parlais de déroute philippine, c'est vrai qu'il semble que Rodrigo Duterte n'ait pas obtenu grand-chose, sinon absolument rien. Par ailleurs, il a l'air d'être relativement conciliant avec Pékin. Il y a eu un incident récemment dans les eaux disputées, il a parlé d'un petit incident, visiblement ça ne semble pas extrêmement grave de son point de vue, et pourtant... Il y a une époque où Duterte était beaucoup plus virulent, juste précisément après la décision. On reviendra dessus, évidemment, de la Cour de la Haye. Il avait invité l'armée à aller sur les îles disputées pour affirmer la souveraineté des Philippines sur ces sites-là. Donc il y avait une vraie volonté d'affirmer et de rentrer en confrontation avec Pékin. C'est terminé, il a compris, Duterte, qu'il n'y avait rien à faire contre Xi Jinping sur cette question-là et que de toute façon, il allait plier.
Alors, qu'il ait lui-même effectivement pris conscience que la négociation serait plus compliquée que prévu, ça ne fait aucun doute. La Chine, de toute façon, reste sur les positions qu'on lui connaît. Et effectivement, cette rencontre entre Rodrigo Duterte et Xi Jinping, c'est l'illustration de la très grande difficulté que les États riverains de la mer de Chine du Sud en Asie du Sud-Est ont à négocier directement avec Pékin, qui fait valoir bien évidemment ses intérêts et ses positions. Le président philippin il a été élu peu avant justement la fameuse sentence arbitrale de juillet 2016. Il a effectivement d'abord mentionné que c'était une sentence arbitrale importante pour les intérêts philippins, mais quelques semaines et quelques mois plus tard, il a quand même adopté une position plus conciliante, mentionnant par moment que bon, la sentence arbitrale pouvait être éventuellement mettre de côté s'il y avait une possibilité de dialogue.
Duterte ou Xi Jinping?
Duterte.
Oui, parce que Xi Jinping a toujours rejeté cette fameuse décision de la Cour de l'Haye. En quelques mots, on rappelle, 2013, Manille lance une procédure auprès de la Cour de la Haye. Trois ans plus tard, 2016, le jugement tombe et donne raison à Manille.
Oui. Alors, c'est pas une procédure à la Cour de la Haye. C'est une procédure dans le cadre de l'annexe 7.
La Cour internationale de la Haye.
Non, c'est une procédure dans le cadre de l'annexe 7 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
D'accord.
C'est quelque chose d'important. Même si, effectivement, la sentence arbitrale a été émise à la Haye, il ne s'agit pas, effectivement, de la Cour internationale de la Haye. Donc ça, c'est important à préciser. Et les Philippines ont, effectivement, lancé cette procédure en janvier 2013. Donc il a fallu trois ans, effectivement, pour que le tribunal arrive à ses conclusions. Et la Chine, bien sûr, dès le début, a déclaré que cette initiative philippine n'était pas acceptable. Et donc, elle a considéré la sentence arbitrale ensuite, en 2016, comme étant nulle et non avenue, entre guillemets. Et donc, beaucoup de juristes chinois se sont prononcés là-dessus. Et je me souviens d'un colloque à Hong Kong en juillet 2016, quelques jours après la sentence arbitrale, qui a réuni à ce moment-là de nombreux juristes chinois, mais aussi des juristes occidentaux, et qui débattaient sur, effectivement, les étrangetés, entre guillemets, de la sentence arbitrale de 2016.
Sébastien Collin, je le disais, vous êtes géographe, vous aviez écrit il y a quelques années « La Chine et ses frontières », et notamment ses frontières maritimes, il en est question dans ce livre. Donc tout à l'heure, je vais vous faire travailler, vous allez nous expliquer ce qu'est cette fameuse ligne en 9 traits, qui est la base des revendications chinoises. Mais d'abord, Marianne Perrondoise, ce que Xi Jinping a proposé à Duterte, c'est de renforcer la coopération dans le domaine de l'exploitation du pétrole et du gaz. Faisons une hypothèse. Est-ce que si les Philippines acceptaient une coopération renforcée dans le domaine de l'exploitation de gaz et de pétrole offshore, est-ce que Pékin pourrait envisager de lâcher sa souveraineté sur ces territoires disputés? Pour le dire autrement, jusqu'où, au fond, la question de l'exploitation des hydrocarbures doit-elle être prise en compte pour comprendre la rigidité de Pékin sur ces questions? Marianne Perrondoise.
Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui expliquent la position et l'intransigeance de Pékin et sa volonté de ne rien lâcher au fond. Vous parlez d'une exploitation conjointe. Alors la question des hydrocarbures, oui, elle est posée régulièrement, tant du côté vietnamien que du côté philippin. Il y a des enjeux pour ces pays, mais il y a des enjeux aussi sur une gestion conjointe des pêches qui est tout aussi importante et sur lesquels Pékin ne se montre pas disposé à négocier d'une quelconque façon. Et Pékin va d'ailleurs plus loin, puisque au fond, la Chine essaye d'emprisonner dans des relations bilatérales assez étouffantes l'ensemble des parties au litige. Je fais allusion aux discussions en cours sur une déclaration sur un code de conduite pour les parties.
Dans le cadre de l'ASEAN.
Dans le cadre de l'ASEAN, qui essaye finalement, en poussant ou en reprenant un dialogue et en reprenant un code qui déjà n'avait pas fait ses preuves quand il avait été donc signé en 2002, et en essayant, où on voit la Chine qui essaye d'empêcher en fait toute coopération extérieure, hein, c'est-à-dire essaye d'empêcher sur la question précise de l'exploitation des hydrocarbures, des alliances potentielles avec des acteurs extérieurs à la zone. C'est-à-dire qu'on a ExxonMobil, par exemple, pour nommer clairement cette compagnie, qui a des intérêts conjoints et des exploitations conjointes avec les Philippines. Et donc, toute la stratégie chinoise est d'essayer de geler ces formes de coopération. Donc, on voit qu'il y a une stratégie qui est très, très particulière, qui ne laisse vraiment aucune place ni aux Philippines, ni au Vietnam, pour préserver un minimum de droits souverains.
Sébastien Collin, je crois que vous considérez que, évidemment, c'est important, mais c'est peut-être pas l'essentiel pour Pékin, cette question de l'exploitation des hydrocarbures. Peut-être que l'essentiel est ailleurs. Je me trompe pas?
Oui, alors, effectivement, ce n'est pas forcément l'essentiel pour Pékin. Il faut mesurer. En fait, alors pour revenir sur la question des zones des zones d'exploitation conjointes, une des grandes craintes des pays d'Asie Sud-Est d'accepter effectivement cette proposition de Pékin et de fait d'accepter la présence de Pékin, parce qu'à travers la zone d'exploitation conjointe, il y a effectivement la présence de Pékin, et donc c'est une stratégie en disant « Ok, on va vous autoriser à exploiter avec nous, mais dans le même temps, vous reconnaissez notre présence et notre domination, entre guillemets. » Et c'est pour ça aussi que ce jeu de la zone d'exploitation conjointe est pris avec beaucoup de distance par les principaux pays sud-est asiatiques concernés et impliqués dans le litige.
Oui, mais vous venez de le dire, vous acceptez notre domination. Est-ce qu'au fond, c'est pas ça l'essentiel? La domination,
oui,
plutôt que l'exploitation de ressources.
J'allais venir, effectivement, un des points essentiels pour Pékin est de s'imposer et d'imposer la Chine comme étant la puissance dominante en mer de Chine méridionale, d'accroître sa présence physique et donc d'être accepté comme comme la puissance dominante. Et en même temps, bien sûr, matérialiser sa présence, sa souveraineté, entre guillemets, même si elle n'est pas reconnue internationalement, mais de leur point de vue, c'est leur souveraineté, qui est autoproclamée et qui est le fruit d'une histoire quand même assez longue.
Sébastien Collin, je vous fais travailler la ligne en 9 traits. Si j'avais sur moi un passeport chinois, je pourrais vous montrer la carte sur laquelle on voit cette fameuse ligne en 9 traits, qu'on appelle aussi ligne en U, ligne en langue de bœuf. Enfin, il y a beaucoup de dénominations. C'est sur cette carte que se fonde Pékin pour déployer toutes ces revendications dans la région. Expliquez-nous d'où vient cette ligne en 9 traits.
Alors, c'est pas, comment dire, Pékin ne se positionne pas uniquement sur cette ligne pour affirmer ses revendications dans la région. Cette ligne, elle est concomitante à la construction d'une revendication territoriale sur les îles en mer de Chine du Sud, qui commence au début du XXe siècle et qui s'affirme ensuite au cours des années 10, 20 et 30. Et donc, cette ligne, elle est parallèle, en fait, à toute une série d'initiatives qui ont été prises à partir de la province du Guangdong, tout en mentionnant qu'entre 1916 et 1928, la République de Chine est divisée entre un gouvernement du Sud, à Guangdong, mené par Sun Yat-sen, et un gouvernement du Nord, à Pékin. Et la province du Guangdong va jouer un rôle très important dans la construction de ces revendications, à travers l'université Sun Yat-sen, créée en 1924, d'abord Université nationale du Guangdong et ensuite devenue Université Sun Yat-sen après la mort de Sun Yat-sen en 1925. Et vous allez avoir des commerçants chinois qui vont aussi beaucoup influer, puisque l'idée d'aller exploiter un certain nombre de ressources sur ces îles, notamment le guano. Et puis vous aurez un rôle également de la marine chinoise qui, quand bien même à l'époque elle reste relativement faible dans un certain nombre de domaines, a quand même été créée avec un ministère de la marine en 1912. Et donc vous avez vraiment la construction là d'une revendication, alors qui est en même temps alimentée, si vous voulez.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que il y a des choses avant cette ligne en neuf traits. Il n'empêche que cette ligne en neuf traits, elle apparaît à un moment et elle est absolument centrale. Elle est avancée dans tous les litiges par la Chine. Expliquez-nous d'où vient cette fameuse carte la ligne en neuf traits.
Elle a été délimitée. Alors il y a plusieurs cartes existantes, hein, et donc il y a des prémices, bien évidemment. Mais officiellement, c'est 1946-1947. C'est à ce moment-là qu'elle est.
Donc avant la République populaire de Chine.
Avant la République populaire de Chine, puisque c'est une, comme je le disais à l'instant, une création de la République de Chine. Et les revendications territoriales de la République populaire de Chine aujourd'hui sont un héritage de la République. Et c'est ce qui explique pourquoi Taïwan et la Chine ont des revendications communes en matière de souveraineté sur les îles.
Marianne Perrandoise, peut-être sur cette question. Non, je vous en prie, vous allez réagir librement. Et puis ensuite, il y a une sous-question que je voudrais vous glisser. C'est que pendant très longtemps, précisément, cette ligne en neuf traits, elle n'a pas provoqué de conflits particuliers. En réalité, les conflits sont relativement récents. Donc j'aimerais comprendre à quel moment est-ce que ça commence à poser problème avec les voisins. Mais je vous en prie, Marianne Perrandoise, vous voulez réagir?
Oui, je voulais réagir en soulignant les logiques de souveraineté, bien entendu. On est dans une émission qui traite des frontières et par définition, les frontières, c'est l'affirmation de la souveraineté de l'État. Et on voit une logique qui aboutit de plus en plus à territorialiser les enjeux autour des espaces maritimes. Ces espaces maritimes sont des protections, mais ce sont aussi des sources de richesses, des sources de ressources, des ressources qui servent au développement des États. Et on se rend compte que la plupart des litiges maritimes dans le monde portent effectivement sur cette délimitation de frontières, puisqu'il y a des stocks halieutiques à gérer, il y a des ressources gazières, il y a effectivement une biodiversité. Il y a des enjeux environnementaux, donc on voit que à l'instant T, ce conflit en mer de Chine territorial, il recouvre bien d'autres problématiques que l'on peut, à une échelle moindre et sans les tensions dues aux postures particulières de la Chine dans la zone, reproduire et observer dans l'océan Indien, en Afrique, en mer de l'Est ou ailleurs. Et si en fait cette logique de souveraineté, on la voit s'affirmer de plus en plus, c'est qu'il y a du côté de la Chine, une volonté de définir ses intérêts nationaux. On a beaucoup entendu un langage sur les corps interestes à partir des années 2000-2010, où la Chine déclarait que effectivement la mer de Chine faisait partie de ses intérêts nationaux, au même titre que le Xinjiang, au même titre que Taïwan. Mmh. Donc il y a quelque part, peut-être pas une reconquête, mais une affirmation de puissance où la Chine veut être, comme Sébastien Collin l'a mentionné, au centre du jeu, et où elle se trouve peut-être en but à une présence américaine, évidemment, qu'elle aimerait contrebalancer au fur et à mesure que se développe sa marine, c'est une priorité pour Xi Jinping, et que se développe aussi, avec le Japon, un ensemble de tensions liées aussi aux frontières maritimes en mer de l'Est.
On reviendra évidemment sur la question des capacités maritimes des uns et des autres, mais cette affirmation de la souveraineté chinoise, Sébastien Collin, on peut la comprendre, mais elle rentre quand même parfaitement en collusion avec le droit international internationale. Il y a quand même un certain nombre de textes. Je pense par exemple à la Convention de Montego Bay qui organise précisément le découpage des eaux. Ça rentre complètement en collision. Que la Chine, par ailleurs, a signé. Signé, ratifié, donc elle est normalement censée le respecter. Et d'ailleurs, parfois, elle le respecte. Elle sait très bien utiliser ce droit international quand c'est dans son intérêt. Mais on voit bien que cette affirmation de la puissance chinoise, elle rentre parfaitement en collusion avec les textes internationaux. Sébastien Collin.
Oui et non. Alors c'est un peu compliqué parce que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est elle-même un texte compliqué, et tout du moins ce qu'il faut quand même prendre en considération, et je tiens à chaque fois à repréciser ça, c'est que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est le résultat de différents compromis, et surtout elle est le résultat d'un rapport de force très important à partir donc du début des années 1970, au moment où l'idée de rédiger la troisième convention émerge. Et elle est le résultat donc des puissances maritimes affirmées à l'époque, États-Unis, Grande-Bretagne, mais aussi URSS et France, bien évidemment. Et puis les pays en voie de développement qui cherchent, bien évidemment, à avoir plus de droits pour l'exploitation des ressources. Et là, on a des confrontations, des désaccords sur quelle distance doit-on adopter pour la mer territoriale, quel type de droits les États sont susceptibles d'avoir en zone économique exclusive. Et un enjeu majeur, et une des discussions majeures qui va émerger à ce moment-là, c'est la question du droit de passage inoffensif des navires en mer territoriale, qui est un point de désaccord très fort entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Donc, la Chine,
vous avez raison. On parlera tout à l'heure du détroit de Taïwan, où il y a eu quelques petits incidents, un incident en particulier dans l'étroit de Taïwan avec le passage d'une frégate, à savoir le Vendémiaire. Enfin, on en parlera tout à l'heure.
Un plus parmi d'autres, mais ce qui est important à signaler, effectivement, c'est que la Chine a signé puis ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, donc signée dès 1982, mais avec un discours quand même du représentant chinois qui mentionne qu'il y a quand même beaucoup de problèmes encore au sein du texte. Et la motivation majeure pour la Chine, à ce moment-là, c'était de s'opposer justement à l'hégémonisme américain sur le plan maritime et de donner une voix aux pays en voie de développement. Et donc, elle a accepté le texte tout en considérant qu'il n'était pas conforme à 100% à ses intérêts.
Sachant que les États-Unis, précisément, eux, n'ont pas ratifié la Convention de Montego Bay.
Et je voudrais quand même ajouter un élément pour renforcer ce discours. On a tendance à poser la Chine comme une puissance révisionniste. En ce qui concerne le droit de la mer, vous avez quand même l'Inde et le Brésil, qui, eux aussi, sont des pays en voie de développement, qui veulent gérer leur zone économique exclusive, comme ils l'entendent, avec des droits souverains, et qui, eux aussi, quand il s'agit des activités militaires dans la zone économique exclusive, ont un peu la même attitude que la Chine, c'est-à-dire pensent qu'il faut demander leur permission. Donc c'est vrai qu'on a une lecture qui n'est pas uniquement la lecture chinoise et qu'elle peut trouver un écho auprès d'autres puissances maritimes dans ce litige très spécifique de la mer de Chine du Sud, si on l'étend à une compréhension commune de la Convention sur le droit de la mer. Et donc là, il y a quand même des aspérités à prendre en compte.
Marianne Perrondoise, on le voit bien, Pékin rejette un peu, au fond, à la fois le droit international, à la fois toutes les instances supranationales qui chercheraient à lui imposer sa loi. On n'envisage absolument pas de rentrer dans une négociation multilatérale pour régler ces différends maritimes. En revanche, on est prêt à engager des discussions en bilatéral. Il y a même des accords qui ont été passés, je pense par exemple au Vietnam, même si quand on regarde bien derrière, en réalité, il n'y a pas grand-chose derrière l'accord, mais on veut bien quand même passer des accords et discuter en bilatéral sur ces questions-là.
On essaie d'évoluer et de ne pas céder au statu quo qui s'appuie, je dirais, sur une puissance militaire et sur une forme d'agressivité ou d'expansion garantie par les gardes-côtes chinois et une flotte de pêche qui est de plus en plus virulente. On va peut-être mentionner le phénomène des milices maritimes que la Chine met au service de cette politique expansionniste et qui...
De quoi s'agit-il ? Allons-y tout de suite.
Allons-y tout de suite. En fait, on a un certain nombre d'acteurs gardiens des droits maritimes de la Chine, très logiquement la marine, très logiquement les gardes-côtes qui ont pour fonction une activité de police maritime, de surveillance des pêches, etc. Et on a finalement une milice paramilitaire qui opère notamment en mer de Chine et que l'on voit aussi en mer de l'Est face au Japon et qui vient quelque part renforcer, protéger La flotte de pêche chinoise, quand elle se déploie ou qu'elle mord ou qu'elle fait des incursions dans la zone territoriale ou dans les zones contestées en mer de Chine ou autour des fameux îlots Senkaku qui sont revendiqués avec le Japon.
Senkaku pour les Japonais, Diaoyu pour les Chinois.
Absolument.
Faut tout dire.
Voilà, exactement. Et donc, cette milice maritime, en fait, est-ce que c'est un acteur étatique et que c'est un acteur non étatique? Au regard du droit, on est un petit peu gêné. Mais au regard des moyens et de la mise en œuvre, on les voit très bien à la main des gardes-côtes chinois. Ce sont des milices qui sont entraînés, qui ont des bâtiments, voilà, qui sont soldés, qui ont des bâtiments...
Subventionnés, Sébastien Collin
avec une coque en fer qui utilise des canons à eau. Donc on peut se poser des questions sur qui est derrière et à la main de qui travaille cette milice maritime que les pêcheurs philippins et vietnamiens ont vraiment appris à redouter.
Qu'est-ce qu'on sait, Sébastien Collin, de cette force maritime un peu alternative et de ses liens exacts avec le gouvernement chinois? Je veux bien que le sentiment patriotique pousse n'importe quel Chinois à aller en mer pour affirmer la puissance de Pékin sur les sites disputés, mais enfin, quand même.
Les milices maritimes sont effectivement, ce sont des pêcheurs à la base et qui sont mobilisés dans des milices.
Mais on les paye.
Bien sûr, et il y a des liens avec l'armée populaire de libération, sans aucun doute. Ils sont considérés comme étant, lorsque Xi Jinping a été promu à la tête du parti en novembre 2012, puis à la tête de l'État en tant que président de la République en mars 2013, il s'est rendu ensuite quelques semaines plus tard à Hainan. C'est là où Hainan, c'est vraiment la tête de pont de la Chine dans l'administration de la mer de Chine du Sud, notamment dans le domaine de la pêche. Et donc, il a rencontré les milices à cette époque et il leur a dit « Vous êtes les gardiens de la souveraineté chinoise en mer de Chine du Sud ». Voilà. Donc, qu'il y a des liens entre ces milices et l'État chinois, c'est incontestable, via notamment le gouvernement provincial de Hainan et sans doute, bien sûr, un certain nombre de structures militaires. Maintenant, il ne faut pas considérer tout pêcheur chinois en mer de Chine méridionale comme étant membre de la milice.
Absolument.
Il y a des pêcheurs qui...
Qui ne sont que pêcheurs. Marianne Perrondoise, regardons un petit peu le volet maintenant, j'allais dire purement militaire, et observons peut-être ce que fait précisément la Chine des territoires qu'elle a acquis progressivement. Si je prends par exemple l'île Wudi, alors Yongxin en chinois, c'est l'une des principales îles des Paracels, revendiquée par Taïwan et par le Vietnam. Elle en avait pris le contrôle Pékin en 1956, et puis progressivement, à partir des années 90 surtout, Pékin on a fait visiblement une place militaire forte avec un aéroport, avec des bases navales. Pendant longtemps, on expliquait que précisément, c'était surtout pour protéger ces pêcheurs chinois. Aujourd'hui, c'est un discours qui est difficilement tenable et qui d'ailleurs a un peu changé. C'est plus ce qu'on dit véritablement du côté de Pékin. Mais je voudrais savoir exactement où est-ce qu'on en est de ce processus de militarisation de ces sites disputés sur lesquels Pékin a désormais bien pris, installé sa place.
A pris pied. Et cette militarisation de la mer de Chine, c'est effectivement une menace qui est brandie par les États-Unis.
Mais qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qu'il y a concrètement comme moyen là?
C'est-à-dire que là, en fait, on a quand même beaucoup d'images satellites qui viennent appuyer des travaux d'agrandissement et des travaux de mise en place de radars ou de systèmes de surveillance. Et qu'effectivement, lorsqu'on a vu sur la fameuse île Wudi la construction d'une piste d'atterrissage, l'argumentaire de Pékin à ce moment-là était effectivement d'apporter des vivres, un soutien médical à la population qui a été, envoyée, détachée sur l'île. Il y a effectivement 1400 personnes, des écoles, un dispensaire, donc une vie
donc
qui s'est organisée.
Civils,
voilà. Et donc, parce que tout l'argumentaire de Pékin, quand Pékin poldérise ces îlots, c'est de les transformer en îles, c'est-à-dire en superstructures qui sont habitables, où une vie économique peut se développer de façon à pouvoir bénéficier de cette extension de la zone économique exclusive. C'est quand même une scène de logique dans Pékin qui vise un peu à s'aligner dans la logique de la convention de Montego Bay.
Est-ce que par exemple il y a des missiles solaires? Je pose la question parce qu'en 2016, Washington avait dit la Chine a installé sur cette île des missiles solaires. Mais on ne sait pas si c'est le cas ou pas.
Ce sont des missiles solaires à courte portée, c'est-à-dire que il faut voir dans les capacités chinoises, il y a un gros discours sur les capacités de déni d'accès. Les capacités de déni d'accès sont quand même basées sur des missiles balistiques à longue portée, des missiles supersoniques, dont l'objectif est quand même, en tout cas dans le discours de Pékin, d'éloigner la marine américaine et ses plus beaux fleurons, c'est-à-dire les porte-avions. Et notamment, vous avez toute une dialectique sur les porte-avions américains en mer jaune, que la Chine, comme la Corée du Nord d'ailleurs, ne veulent pas tolérer, et à l'égard desquels la Chine a mis en place vraiment une stratégie anti-accès. Pour ce qui est de ces systèmes de radars anti-aériens et de ces systèmes de missiles, moi effectivement, c'est de la défense côtière, puisque au fond, Pékin est dans une logique de souveraineté, donc explique que pour des besoins de défense propre, d'autodéfense, il lui faut mettre en place les moyens de protéger ces populations qui sont sur l'île. Vous avez parlé de bases navales. Il y a des pistes d'atterrissage à usage dual, c'est-à-dire qu'on y a vu des avions civils sous prétexte de tourisme ou de ravitaillement. Et c'est vrai que cette logique, ce prétexte de tourisme dans l'esprit chinois vise à agrandir la fréquentation et vise à normaliser en fait cette présence chinoise en mer de Chine du Sud. Mais il y a aussi une logique effectivement d'appui logistique potentiel, peut-être pas de base navale, mais au moins d'appui logistique qui peut se développer et qui là peut être effectivement dual. On pense évidemment aux flottes de pêche, à ces fameuses milices qu'on a pointées du doigt, mais aussi aux bâtiments garde-côtes et évidemment à la marine chinoise.
Sébastien Collin, je vais vous laisser réagir librement. Et puis précisément, Marianne Perrondoise parlait à l'instant de la marine chinoise. J'aimerais savoir comment, dans quelle proportion, selon quel programme, est-ce que Pékin organise la montée en puissance de sa marine depuis quelques années ? On a un peu une idée des dynamiques en cours. On sait bien que la marine chinoise, c'est pas la marine américaine, qu'on est peut-être loin d'un rattrapage. Mais enfin, les efforts ont été considérables, peut-être d'ailleurs en particulier depuis l'arrivée de Xi Jinping. J'aimerais qu'on ait juste un peu une idée justement de ces efforts.
Alors sur le plan de la modernisation de la marine, justement, donc c'est là encore, si on remet ça dans un contexte historique plus long, c'est une vieille idée. Qui émerge aussi au cours de la première moitié du XXe siècle. Mais bien évidemment, l'évolution politique, sociale et économique de la Chine fait que les moyens disponibles pour les autorités chinoises afin de lancer véritablement cette modernisation de la marine, il va falloir attendre la fin des années 80 pour les avoir. Donc les choses vont commencer progressivement au cours des années 80 et 90. Et à mesure, bien sûr, que le développement économique chinois va permettre au pays d'investir un peu plus dans la modernisation de la marine, on va avoir une accélération. Et donc l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping correspond effectivement à une nouvelle accélération, avec une volonté très ferme d'aller encore plus loin, donc avec le développement d'un programme donc de porte-avions. On en a déjà quelques-uns donc opérationnels et d'autres sont prévus à l'avenir. Un gros programme également de construction de sous-marins. Donc peut-être que Marianne a sans doute plus d'informations que moi sur ces différentes questions, sur les plans strictement militaires. Et puis dans d'autres bâtiments, bien sûr, il n'y a pas que les porte-avions, même si on focalise beaucoup dans les médias sur les porte-avions, il y a toute une série d'autres bâtiments qui sont aujourd'hui l'objet, bien évidemment, de progrès techniques, technologiques. Et là...
Mais en tout cas, très clairement, une montée en puissance du matériel qui vise à quoi ? À faire de cette mer méridionale un lac intérieur ?
De faire de la mer de Chine méridionale un lieu de projection et d'affirmation de la puissance chinoise, faire de la mer de Chine méridionale un lac intérieur, il y a peut-être cette idée qui circule
en Chine. C'est l'idée de Xi Jinping.
Je pense, à mon sens, que l'idée d'un lac intérieur, quand même, semble difficile à pouvoir mettre en place tant que la présence américaine et la volonté américaine...
Rien n'est trop difficile pour Pékin.
C'est à voir, je ne sais pas.
Marianne Perrondoise.
Je pense qu'on est dans un schéma global d'expansion d'une puissance navale au service de l'expansion d'une puissance économique. Et c'est très mahanien, et c'est en fait un mécanisme que l'on observe dans la construction des principales marines américaines, européennes. Donc, quelque part, je dirais qu'on ne peut pas disputer à Pékin le souci d'avoir une marine de haute mer.
Bien sûr.
Et voilà, quant à l'usage qu'elle en fait, évidemment, c'est évidemment autre chose. Mais on a vu...
Est-ce que Pékin peut être assez rapidement un rival très sérieux de la marine américaine, par exemple.
Pékin veut avoir une marine qui sécurise un certain nombre de ses approvisionnements. Donc une marine de haute mer, une marine océanique que l'on voit partout. On a appris à la voir régulièrement dans l'océan Indien. Elle possède cette base à Djibouti. Elle a aussi ce schéma un peu ambitieux de construction, en tout cas de modernisation portuaire, cette fameuse route maritime qui lui permet effectivement d'avoir des soutiens logistiques et qui peuvent bénéficier évidemment à sa flotte marchande en premier lieu, mais aussi à sa flotte de guerre. Donc on voit bien un schéma où finalement, s'adossant à sa puissance économique récente mais réelle, la Chine peut mettre en œuvre un programme naval de rattrapage, peut construire des frégates pour défendre ses intérêts souverains comme le fait la marine française, comme le fait la marine américaine, et peut être en mesure de participer aussi à la sécurisation des grandes voies maritimes internationales. C'est au fond ce qu'a fait le Japon, ce qu'ont fait les principales marines de guerre autour d'opérations de l'OTAN ou de l'Union européenne, dont l'océan Indien, pour lutter contre la piraterie somalienne. Et évidemment, Pékin s'interroge sur sa capacité à participer, à soutenir, à être un acteur de la sécurité internationale. Et là, ça rejoint effectivement des ambitions très nationales qui sont d'avoir un outil naval qui lui permette de défendre évidemment ses intérêts personnels, mais aussi...
C'est amusant, quand je vous entends, ça ne correspond pas franchement à ce que j'ai l'impression de voir sur le terrain. Vous me dites...
Non, mais vous voyez la mer de Chine du Sud, il y a autre chose aussi dans l'expansion de la puissance navale chinoise.
Non, mais par exemple, quand vous dites Pékin ambitionne de participer de la sécurité des détroits, des zones de fort commerce, etc. On voit plutôt une Chine qui précisément a l'air de vouloir garder pour elle un certain nombre d'espace, notamment la mer de Chine méridionale. On va parler dans un instant de ce petit accrochage au printemps avec cette frégate française qui a été interdite, en tout cas raccompagnée très gentiment alors qu'elle était dans le détroit de Taïwan, qui est a priori un détroit sur lequel elle a absolument le droit, en tout cas au regard du droit international, de naviguer. Donc je veux bien que Pékin soit là pour organiser la sécurité maritime du monde, mais c'est pas... On la sent pas aussi aussi pacifiste que ça.
Aussi multilatérale. Certes, j'essaye de replacer dans un cadre qui explique son rythme de construction navale. Alors évidemment, il y a une ambition qui est aussi de contrebalancer la puissance américaine, parce que clairement, jusqu'à présent, la sécurité des global commons, pour employer une phraséologie bien connue, on le doit à la puissance de la marine américaine qui est partout. Et on comprend que ça gêne Pékin et que Pékin veuille avoir les moyens de sécuriser son accès aux principales voies maritimes. Il n'en demeure qu'elle a une conception très extensive de ses côtes. On est bien d'accord qu'elle y englobe le détroit de Taïwan, qu'elle y englobe la mer de Chine, la mer jaune. Donc je conçois effectivement, je ne suis pas l'avocat de Pékin.
Non, bien sûr. Et par ailleurs, c'est tout à fait normal au sens où, comme elle considère que Taïwan, c'est la Chine, c'est tout à fait logique de son point de vue, en tout cas. C'est la Saint-Colin.
Oui. Alors, juste pour réagir, effectivement, c'est important de mentionner cette volonté de la marine chinoise de se projeter au-delà des mers de Chine et au-delà de cette fameuse première chaîne d'îles, pour des missions, bien sûr, de sécurité, de navigation maritime. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est à mesure que la Chine va continuer de s'affirmer dans ses espaces océaniques, à mesure que sa puissance maritime va croître, est-ce qu'elle ne sera pas quand même obligée, à un moment donné, de prendre un certain nombre de responsabilités et de se dire que, finalement, il y a peut-être dans le droit de la mer des choses que l'on se doit maintenant de respecter. Et là, il faut mentionner quand même, même si je ne sais pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, quel est le niveau du débat de ce point de vue, j'ai publié en 2016 un article de synthèse dans la revue Perspective Chinoise sur la Chine, les États-Unis et le droit de la mer. Et en conclusion de ce texte-là, je mets en évidence qu'il y a en Chine des juristes spécialistes du droit international de la mer qui militent pour que Pékin s'accorde un peu plus sur le plan de la Convention des Nations Unies de la mer et respecte notamment le droit de passage inoffensif des navires militaires en mer territoriale, parce que lorsque la Chine effectivement sera puissance maritime et puissance aérienne dans le même temps, pour les avions comme pour les navires, le droit de passage inoffensif en mer territoriale peut être intéressant pour elle. Maintenant, dans quelle mesure ce débat va être pris en considération par les hautes autorités du pays et dans quelle mesure et quand sera-t-il appliqué, ça reste à voir. Mais c'est un débat et un questionnement intéressant.
On est avec vous, Sébastien Collin, et vous, Marianne Perrondoise, autour de cette série consacrée aux frontières de la colère. Aujourd'hui, là, c'est la mer de Chine méridionale qui nous intéresse et on va s'intéresser en particulier à la place de la France dans tout cela.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque le 7 avril dernier, cette frégate militaire, on a déjà fait allusion à plusieurs reprises, le Vendémiaire franchissait ce détroit de Taïwan, une zone de tension évidemment dont les eaux sont particulièrement scrutées par Pékin. Le Vendémiaire est alors repéré par la marine chinoise qui lui demande tout simplement de rebrousser chemin, qui le raccompagne. Paris avait alors vivement protesté, expliquant franchir ce détroit chaque année. Et la ministre de la Défense, Florence Parly, avait d'ailleurs beaucoup insisté sur la liberté de navigation lors du sommet de Shangri-La, c'était en juin dernier.
We will preserve with our partners free and open access to maritime lines.
Nous conserverons avec nos futurs partenaires un accès libre aux routes maritimes. C'est une question de principe. Quand les puissances affranchissent des règles, quelle sécurité pouvons-nous garantir aux plus petits pays de cette région?
En
ce qui nous concerne, nous réglerons ce problème à notre manière, nous resterons fermes, nous ne chercherons pas la confrontation, mais nous ne reculerons pas. Nous continuerons à naviguer autant que nécessaire en mer de Chine méridionale. Nous ferons face à des objections et à des opérations maritimes douteuses, mais nous ne nous laisserons pas intimider. Comment pouvons-nous cautionner ce que la loi internationale condamne ?
Voilà, on entendait à l'instant Florence Parly, ministre de la Défense, lors de ce sommet, le Shangri-La à Singapour. On va retrouver un nouvel invité, Emmanuel Véron, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe et professeur associé à l'école navale. Je voudrais qu'on revienne sur cet événement et sur la réaction de Florence Parly. On vient d'en entendre un extrait. Elle a beaucoup insisté sur la question de la liberté de naviguer. Elle a rappelé que la France avait l'habitude de passer dans ce détroit de Taïwan, même chaque année, et que cette fois-ci peut-être, enfin même sûrement, la Chine avait réagi de façon différente. J'ai deux questions pour commencer. Est-ce qu'il est vrai que la France a l'habitude de passer dans ce détroit de Taïwan et le fait chaque année, et est-ce qu'il est évidemment vrai, ça semble clair, mais pourquoi finalement la Chine aurait cette fois-ci réagi différemment, Emmanuel Véron?
Oui, la France a entre guillemets l'habitude d'avoir des bateaux qui naviguent dans l'approche maritime, et c'est ce qui a été dit précédemment dans cette émission, de la Chine, et qui renvoie directement à toutes les problématiques de détenir accès et de la problématique chinoise qui cherche à faire le vide, littéralement, des marines occidentales, en particulier américaines et françaises, par la même ou japonaise, dans l'approche de son territoire. Si on revient sur l'exemple de la frégate Vendémiaire au début avril dernier, qui est basée en Nouvelle-Calédonie, on était dans le contexte effectivement de symbolique, mais également de diplomatie navale, de montrer les capacités françaises à faire respecter le droit international, à respecter le droit international, notamment de liberté de navigation. Et le deuxième élément est celui des 70 ans de la marine chinoise, très, très précisément en avril dernier. Et donc face à cela, c'est un message diplomatique qui est envoyé de liberté de navigation dans le détroit de Taïwan, et bien évidemment, sans grande surprise finalement. Pékin envoie un signal aux bateaux français, brouille diplomatique, assez rapide, assez peu de retombées dans la presse, mais finalement on est sur quelque chose qui est assez classique. Ce qui roule exactement de la même manière dans le bassin de la mer de Chine méridionale également.
Mais Emmanuel Véron, pourquoi est-ce que la France tient tant à franchir ce détroit de Taïwan? Est-ce qu'en gros on avait préparé la chose, c'est-à-dire on s'est dit effectivement on va y aller, ça va provoquer une réaction de Pékin et en retour on va pouvoir faire sa petite déclaration, sa grosse déclaration même sur la question de la liberté de naviguer?
On est effectivement dans ce principe de liberté de navigation dans les eaux internationales. Et parallèlement à cela, il y a un principe qui est celui actuellement du ministère des Armées, sans me faire pour porte-parole des ministères des Armées, ni de la diplomatie française, qui est le concept Indo-Pacifique, dans lequel la France joue pleinement de ses capacités diplomatiques, de ses capacités navales, qui prend en compte la liberté de navigation dans tout le bassin Indo-Pacifique, en écho à la montée en puissance et à la militarisation, littéralement, de l'approche maritime chinoise en mer de Chine méridionale. Où je souhaite le rappeler parce que c'est un paramètre très important. Pour synthétiser la mer de Chine méridionale, on est face à une victoire militaire de la Chine en temps de paix. C'est pour la Chine un véritable laboratoire de sa marine et de sa balistique. Donc, par rapport à cela, il y a un message qui est envoyé, diplomatique, de liberté de navigation et de multilatéralisme.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière Emmanuel Véron d'autres enjeux? Évidemment, la France, on le sait, c'est un industriel naval important. Naval Group, anciennement des CNS, détenu majoritairement, rappelons-le, par l'État français, produit des équipements, évidemment. Le groupe capte quand même une bonne partie du marché mondial. Je ne sais plus exactement, mais ça doit être entre 15 et 20%. Dans quelle mesure est-ce que les tensions, précisément, dans cette mer de Chine méridionale profitent d'ores et déjà à l'industrie navale française? Et dans quelle mesure est-ce qu'elles pourraient encore profiter à l'avenir? Parce qu'on voit bien, on l'a décrit très bien avec Marianne Perrondoise et Sébastien Collin, qu'il y a cette montée en puissance, cette militarisation de l'ensemble de la zone, de la part de Pékin évidemment, mais aussi de la part de la région, des autres pays de la région qui répondent à cette militarisation. C'est quand même dans l'intérêt des Français tout ça. En tout cas, on va pouvoir vendre des sous-marins et des frégates.
Tout à fait. Alors, c'est déjà le cas.
Ça ne vous échappe pas. Déjà le cas, bien sûr.
Effectivement, on est dans une militarisation, voire une surmilitarisation, avec beaucoup guillemets de la zone Asie-Pacifique, dans un contexte très précis de la militarisation elle-même et de l'augmentation des budgets, des moyens et des capacités de l'armée chinoise ou des armées chinoises. Par rapport à cela, les voisins témoignent d'une certaine inquiétude et donc font appel aux différents industriels de défense, dont la France, différents fleurons, et cherchent à s'équiper. À s'équiper en sous-marin, à s'équiper en frégate, à s'équiper en avion de toute composante possible imaginable, avion de guerre, bien évidemment.
Qui cherche Emmanuel Véron à s'équiper? Parce que vous dites... Oui, mais alors, lesquels? Parce que, par exemple, on a eu effectivement assez récemment l'annonce d'un très très gros contrat de l'Australie qui a acheté des sous-marins, une douzaine de sous-marins. Mais est-ce que là, les pays qu'on a évoqués, c'est-à-dire les Philippines, le Vietnam, est-ce que ces pays-là ont déjà passé des contrats ou sont en passe de passer des contrats pour acheter du matériel français?
Alors, très précisément, l'exemple de l'Australie que l'on peut aujourd'hui dire qu'il est dans le voisinage de la géopolitique actuelle.
Ouais, mais il n'est pas en mer de Chine méridionale.
Il n'est pas en mer de Chine méridionale, mais il fait partie, si vous voulez, du dispositif Indo-Pacifique et d'un système d'alliance avec une partie de l'Occident, en particulier les États-Unis, et de dialogue intense et intensifié avec le Japon, dans le contexte même de cette montée en puissance chinoise. Si on revient aux pays d'Asie du Sud-Est, on peut regarder ce qui se passe au niveau du Vietnam. Effectivement, le Vietnam s'intéresse à l'acquisition d'un certain nombre de matériel. On peut regarder à la Thaïlande. Alors, paradoxalement, la Thaïlande fait le choix de à la fois se servir en Chine populaire et avoir des composantes plutôt de matériel occidental. On peut regarder également ce qui se passe à Singapour, en Malaisie, en Indonésie. Tout le monde farme, tout le monde s'équipe.
Et ça profite à l'industrie française. Restez avec nous, Emmanuel Véron. Je voudrais faire réagir Marianne Perrondoise.
Oui, moi, ce que je voudrais dire sur ces opérations de liberté de la navigation. On n'a pas abordé les FONOPS américaines, qui font beaucoup débat dans la zone, font à chaque fois réagir la Chine.
Redites-moi, les...
Les opérations de navigation, Freedom of Operation Navigation.
Merci.
Donc, c'est avec ce sigle très ramassé, FONOPS, qui fait un petit peu peur. Mais qui durent depuis une dizaine d'années, qui ont été mises en place au moment de la première administration Obama, donc qui sont pas un phénomène très très récent, mais qui déjà positionnent la marine américaine dans une posture de contestation vis-à-vis effectivement de ce début à ce moment-là d'expansion navale chinoise. Vous avez le Japon qui finalement s'est montré de plus en plus visible en mer de Chine du Sud en établissant un parallèle avec ses difficultés propres avec la Chine et ses disputes sur les frontières maritimes en mer de l'Est, de façon à venir soutenir les pays de l'ASEAN. Parce qu'il y a, je dirais, des politiques aussi propres à ces puissances maritimes asiatiques en direction de l'ASEAN qu'il ne faut pas laisser seules face à la Chine. Et l'Inde a aussi cette volonté de présence en s'appuyant sur ses moyens nationaux. Et donc, vous avez des stratégies qui sont graduées. Et la France a finalement une stratégie médiane. Elle exprime son attachement au principe de la liberté de de navigation. Elle ne veut pas s'aligner devant, enfin en tout cas derrière ce vocable de Phonox qui est quand même très agressif, très 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 anti-chinois malgré tout. Donc vous avez un certain nombre d'attitudes qui sont plus ou moins graduées dans ce soutien implicite aux postures vietnamiennes, aux postures philippines, de façon générale aux postures des pays de l'ASEAN face à cette expansion navale chinoise. Et c'est vrai que cette stratégie indo-pacifique, elle est très intéressante à pointer du doigt. Elle prend de plus en plus de substance. Mais il y a pour la France aussi un enjeu qui est purement national, c'est de réaffirmer que la France est une puissance riveraine asiatique. Elle est présente à La Réunion, elle est présente à Nouméa. Donc il est normal que sa flotte de guerre soit présente et soit visible dans la zone aussi.
Ouais, c'est évidemment une nation maritime très importante, la France. D'abord, en surface, on est la deuxième plus grande surface maritime au monde. Sébastien Collin.
Oui, alors juste un petit élément de complément, justement, sur les FONOPS, hein, ces fameuses opérations de liberté de navigation américaine. Elles ont été lancées en 1979. Hein, donc c'est même avant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L'objectif majeur pour les États-Unis étant de faire comprendre aux pays qui seraient ciblés par les FONOPS qu'ils ont des revendications maritimes dites « excessives », entre guillemets, c'est-à-dire pas conformes au droit international de la mer, tel que les États-Unis se positionnaient pour le défendre à l'époque et continuent de le faire aujourd'hui. En mer de Chine du Sud, elles sont beaucoup plus récentes, bien évidemment, et elles sont liées avec cette inquiétude croissante au sein de l'administration américaine de l'affirmation de la Chine en mer de Chine méridionale. Mais les États-Unis mènent des FONOPS ailleurs dans le monde, dont on parle peu, en fait, parce que dès que ça a lieu en mer de Chine du Sud, c'est tout de suite, ça focalise l'attention et c'est très médiatisé.
We left our little island, sure full of its own, and pardons like a Christmas card.
Merci beaucoup à nos invités. D'abord Emmanuel Véron qui était à l'instant avec nous par téléphone, professeur associé à l'école navale. Un grand merci à nos deux invités ici en plateau, Marianne Perrondoise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, mais aussi chercheuse associée aux séries Sciences Po. Sébastien Collin, grand merci également à vous, géographe, maître de conférence à l'INALCO et chercheur à l'IFRAE. Et puis auteur, je l'indique, toujours intéressant pour nos auditeurs, ce livre qu'on a dans notre bibliothèque dans Culture Monde, La Chine et ses frontières, qui était paru chez Armand Collin. Merci beaucoup à tous. 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors à quoi ressemble le paysage politique dans nos démocraties, longtemps structuré par le clivage central droite-gauche? Voilà votre question.
Dans de nombreux pays européens au cours des années 90, souvenez-vous, celui-ci, le clivage droite-gauche, avait été progressivement estompé par l'opposition entre pro et anti-européen. Il y avait des fédéralistes du centre-droit et du centre-gauche, et les souverainistes aussi, provenant tantôt de la droite, tantôt de la gauche, convergeaient. Plus récemment, on a cru pouvoir remplacer ce partage par celui qui distinguerait partisans de l'ouverture et partisans de la fermeture. Mais ces notions sont bien vagues et on peut être favorable au libre-échange commercial, à la mondialisation, tout en réclamant un contrôle plus rigoureux des flux migratoires et réciproquement. Les dernières élections, toujours en Europe, se sont jouées, on l'a vu, sur la division de l'électorat entre populistes et, disons, faute de mieux, progressistes, salvinistes versus macroniens, si vous voulez. Le clivage droite-gauche est-il pour autant moribond? Eh bien, pas complètement si l'on en croit le dernier sondage Odoxa. Certes, un fort pourcentage d'électeurs en France ne se reconnaissent plus dans cette grille de lecture qu'ils jugent dépassée. 45% des sondés en France disent ne pas se positionner sur cette échelle. Mais il en reste 24% pour se dire de droite et 17% pour se déclarer de gauche. 13% se plaçant au centre. Il n'y a plus guère que ceux des médias qui cherchent à hystériser le débat public pour tenter de nous faire croire que notre vie politique serait structurée par une querelle frontale entre la droite dure, zémourienne, si vous voulez, et une gauche radicale. Mais on le voit, les catégories de droite et de gauche n'ont pas disparu pour autant.
Alors Brice, qu'en est-il aux États-Unis? Comment s'y structure le débat politique et quelles sont les chances respectives de l'improbable Donald et des différents candidats à l'investiture démocrate?
Combinant une grille de lecture en termes de valeurs et les derniers sondages de l'Institut Pew, Richard Tafel, président du Centre de Planning Stratégique Public Squared, vient de proposer une typologie électorale américaine assez convaincante. Il montre en particulier qu'il existe, à côté d'une droite traditionnelle, une gauche tout aussi traditionnelle qu'il qualifie de pratiquante et diverse. Quelle que soit la religion à laquelle elle se réfère, ce sont des personnes qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche, tout en estimant qu'il est nécessaire de croire en Dieu pour être moral et avoir de bonnes valeurs. Elles sont souvent âgées et elles pèsent 6% de l'électorat. On connaît mieux la droite traditionnaliste parce qu'elle fait l'objet d'une attention soutenue de la part des médias. Ce sont les fameux « country first Americans ». Ils ont peur que l'Amérique perde son identité. Ils votent en masse pour Trump. Ils pèsent là aussi également 6% de l'électorat. Alors, face à ces traditionnels, Tafel distingue également modernistes de gauche, il les appelle « opportunity democrats », et modernistes de droite. Les « opportunity democrats », ce sont, si vous voulez, les Clintoniens. Bill, hein. Ils croient au rêve américain et ils veulent le faire partager. Ils se définissent comme modérés et inclusifs. Ils sont favorables aux droits des gays et des minorités. En perte de vitesse électorale, ils constituent encore cependant 13% de l'électorat américain. Les modernistes de droite maintenant, eux sont également favorables au business et au marché, mais ils estiment que c'est le parti républicain qui défend mieux ses valeurs. Ils sont constitués de deux groupes, que distingue d'abord leur âge. 20% de l'électorat américain correspond à ce qu'on appelle les « core conservatives ». C'est le noyau dur de l'électorat républicain. Ce sont des blancs, principalement de sexe masculin, d'âge mûr, surtout intéressés par les questions économiques. Mais il faut leur ajouter un nouveau groupe qu'on appelle les « entrepreneurs de nouvelle époque ». Jeunes, urbains, d'origine ethnique diverse, ils sont favorables aux droits des gays et surtout passionnés d'innovation. Si vous voulez, c'est la génération des start-uppers. Ils votent républicains, mais ils sont hostiles à Donald Trump. Ils comptent pour 9% de l'électorat. Alors, l'originalité de cette nomenclature de Richard Tafel, c'est d'avoir repéré deux groupes de ce qu'il appelle la gauche postmoderne et un autre de droite postmoderne. Premier cas, c'est celui de ces jeunes éduqués qui rejettent absolument le capitalisme et ne voient le monde, je le cite, qu'à travers le prisme de la politique des identités. Ils sont sectaires, ils ne fréquentent que ceux qui pensent comme eux, ils haïssent absolument Trump et ils sont très engagés politiquement. Ils votent en masse et peuvent représenter jusqu'à 25% de l'électorat américain. Mais parmi cette gauche postmoderne, il faudrait aussi compter le groupe des démocrates mécontents. Ce sont des Américains qui se considèrent comme laissés pour compte et qui réclament davantage de programmes sociaux. Beaucoup considèrent que voter ne sert plus à rien. Ils pourraient cependant, s'ils allaient voter, peser pour 11% des voix. Enfin, vous avez la droite postmoderne. Elle est composée d'électeurs républicains profondément sceptiques sur le fonctionnement du capitalisme aux États-Unis, qu'elle juge injuste et phagocytée par Wall Street. Ces gens-là se reconnaissent dans Trump. Et il représente 10% de l'électorat. Maintenant, faites les comptes et vous verrez quelles sont les chances de Trump d'être réélu.
Eh bien, justement, ça sera notre sujet demain de table ronde, cher Brice Couturier. Vous voyez comme les choses sont bien faites. Merci beaucoup, Brice. On vous retrouve lundi.